Vous écoutez On lit pour vous.
Ce que la Shoah nous enseigne sur la peur de l'autre, un texte de Simon Dugrenier, paru le 14 février 2025 dans La Tribune. Le 27 janvier dernier, on commémorait les 80 ans de la libération du camp de concentration et de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Un endroit où plus d'un million de Juifs et de marginalisés furent assassinés. J'ai longtemps considéré l'étude de la Shoah comme quelque chose d'ennuyeux. Au secondaire, on en parlait en anglais, en histoire et même en français, où le sujet de certains travaux traitait du Troisième Reich et de l'extermination massive des Juifs. On en parlait toujours de la même manière. On écoutait le garçon au pyjama rayé et on décrivait les événements comme une tragédie où les victimes étaient restées passives face à un tyran fou. Nous, on était des spectateurs résignés d'une histoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous étions soulagés du décès d'Hitler, comme si sa mort nous garantissait d'échapper à de futures atrocités. Maintenant, au baccalauréat, en enseignement au secondaire, je comprends toute l'importance d'étudier cette histoire qui a laissé une empreinte indélébile sur nos sociétés. Il faut s'y intéresser, particulièrement dans le contexte politique actuel. À l'époque, les nazis ont désigné des classes sociales et ethniques jugées indésirables. On rêvait de la nouvelle race aryenne. On construisait l'autre. Cet autre bolchévique, juif, handicapé, noir, homosexuel ou étranger. Ces personnes jugées responsables des maux allemands. Dans une différente intensité, on revoit apparaître ces discours simplistes qui tentent de désigner un ou des coupables à des problèmes complexes. Au Québec, on a désigné les immigrants comme les responsables de la crise du logement, de la baisse du taux de natalité et même comme les responsables de violence et d'extrémisme. Aux États-Unis, on propose d'expulser les immigrants jugés illégaux dans des déclarations inquiétantes. On propage de fausses nouvelles en stigmatisant injustement des communautés haïtiennes. On fantasme l'autre, on l'imagine et on le caricature. Processus observé en Allemagne, où l'on a jugé des responsables des difficultés économiques et sociales du pays. Certes, il existe des différences entre le régime nazi et le climat actuel, mais le glissement auquel nous assistons est inquiétant. Il faut cesser de nous voiler les yeux. Malheureusement, on observe que ces discours dangereux percolent dans les classes au secondaire. Certains élèves reproduisent ces schémas de pensée simplistes pour désigner des responsables aux enjeux actuels. Les problèmes contemporains sont inquiétants et la droite profite de ce climat pour rallier des partisans. Dans « Faire que », point d'exclamation, Alain Deneau écrit « N'ayez peur de rien. Rien n'est de votre faute. Les problèmes sont ailleurs. L'affaire seulement d'un bouc émissaire ou du méchant loup. Le chasseur est là qui veille à votre sécurité. Puis l'avenir sera radieux. » Les chasseurs sont parmi nous. Ces personnes qui désignent des coupables dans l'espace public en les stigmatisant, en leur faisant porter le chapeau des mots américains, québécois ou canadiens. Ils étaient juifs, maintenant ils sont immigrants, transgenres ou woke. Ce sont les êtres soi-disant responsables des problèmes d'un pays. Face à la montée du populisme, il est primordial d'étudier la Shoah. On doit montrer que les idées du Troisième Reich ne sont pas périmées et qu'elles se sont transformées. Encore aujourd'hui, certains tentent de désigner des boucs émissaires en profitant et en alimentant la peur de l'autre. Collègues enseignants, continuez d'étudier la Shoah en classe. Ne vous contentez pas de montrer uniquement les souffrances passées. Montrez de quelle manière les mécanismes d'endoctrinement et de manipulation ont utilisé la peur pour justifier l'intolérance. Cessez de voir le passé comme quelque chose de révolu. Parlez de ceux qui propagent toujours ces idées dangereuses. En liant passé et présent, on peut espérer déconstruire ces relents de haine qui apparaissent autour de nous. C'était ce que la Shoah nous enseigne sur la peur de l'autre, un texte de Simon Dugrenier, paru le 14 février 2025 dans La Tribune.
Cinq bienfaits des activités hivernales de plein air. Un texte commandité, paru le 18 février 2025 dans la presse. Pendant la saison hivernale, la tentation de rester bien au chaud à l'intérieur peut être grande, surtout quand il fait un froid de canard. Toutefois, profiter de chaque occasion pour pratiquer des activités de plein air a des effets éprouvés sur la santé physique et mentale. Voici pourquoi il est important d'intégrer le plein air à votre routine l'hiver et comment le faire. Bon pour le moral. Aller jouer dehors, ça fait du bien au corps et à l'esprit, surtout quand la nature est de la partie. Cette sensation d'apaisement ressentie après une sortie en plein air a été scientifiquement démontrée. Même en milieu urbain, les espaces naturels sont une source de bien-être et de plaisir, et leur pouvoir apaisant contribue à réduire certains maux urbains comme la qualité de l'eau et de l'air. À peine 20 minutes passées en forêt entraînent une diminution considérable du taux de cortisol, soit l'hormone du stress. Il n'est donc pas étonnant que les bains de forêt contribuent à diminuer l'anxiété chez les personnes qui s'y adonnent. Une belle bordée de neige vient de tomber. C'est l'occasion parfaite d'enfiler vos raquettes et de visiter les nombreux parcs que compte le Québec. Un sommeil réparateur. D'autres études ont prouvé que l'activité sportive pratiquée en nature a des effets positifs sur plusieurs aspects de la santé globale, dont la qualité du sommeil. L'activité physique contribue en effet à créer une saine fatigue, ce qui aide à s'endormir et à dormir profondément. L'exposition à la lumière naturelle, si précieuse l'hiver, favorise également la régulation du cycle circadien. Si vous avez la chance de résider près d'un sentier de patinage, d'un parc, d'une base de plein air ou d'un petit boisé, une petite sortie en plein air pourrait ainsi se transformer plus tard en une nuit réparatrice. Stimuler le système immunitaire. Le saviez-vous? Le contact avec la nature aide à fortifier votre défense immunitaire. Selon une étude, lorsque vous marchez en forêt, l'exposition aux substances naturelles émises par les plantes stimulerait l'activité des cellules NK, Natural Killer, pendant les 7 jours qui suivent. Ces cellules sont essentielles pour lutter contre les infections. En pleine saison des virus, c'est là une bonne raison de planifier des activités physiques extérieures qui vous plaisent, et ce, dans un cadre naturel. Pour revigorer votre système immunitaire, mettez à l'horaire une sortie dans un boisé situé près de chez vous. Un cerveau bien oxygéné. De la mémoire à la concentration, en passant par l'attention et la créativité, le plein air contribue à stimuler les capacités cognitives. D'ailleurs, les enfants qui ont facilement accès à des espaces verts, à l'école ou à la maison, obtiendraient de meilleurs résultats scolaires. Avec l'abondance de terrains de jeux naturels qu'on trouve au Québec, il est facile de trouver des endroits où prendre un grand bol d'air frais. Une sortie de ski de fond dans un parc de proximité sur l'heure du midi? Voilà la meilleure recette pour avoir un regain d'énergie l'après-midi. Des enfants plus actifs. Tous ces bienfaits physiologiques et psychologiques ont également des effets positifs sur la santé globale des tout-petits et des enfants. Naturellement portés vers le jeu, les jeunes trouvent facilement leur bonheur et développent leurs habiletés motrices en sortant s'amuser dehors. Sur le plan social, plusieurs études montrent que l'abondance et la qualité de la végétation d'un lieu naturel favorise sa fréquentation, ce qui multiplie les interactions sociales. Le plein air devient ainsi une bonne façon de briser l'isolement, chez les jeunes comme chez les adultes. Construire des forts, fabriquer des bonhommes de neige, repérer les traces d'animaux dans les sentiers enneigés, pratiquer un nouveau sport tel le vélo à pneus surdimensionnés. Les activités gratuites ou peu dispendieuses sont nombreuses même l'hiver et certains sites de plein air sont accessibles sans frais. Aussi, de nombreux endroits permettent d'emprunter ou louer de l'équipement. C'est parfait pour initier les plus jeunes au plein air sans devoir les équiper de la tête aux pieds. C'était « 5 bienfaits des activités hivernales de plein air », un texte commandité paru le 18 février 2025 dans La Presse.
Les chefs autochtones en Ontario appuient la réforme de la protection de l'enfance. Un texte de La Presse canadienne paru le 26 février 2025 dans Espace autochtone. Les chefs des Premières Nations de l'Ontario ont voté à une écrasante majorité, récemment, en faveur d'un accord conclu avec Ottawa pour une réforme de la protection de l'enfance. Un accord spécifique à l'Ontario permettant aux Premières Nations de prendre en charge la protection de l'enfance a été appuyé par 76 chefs réunis en assemblée. Il y a eu 4 objections et 3 abstentions. À l'issue du vote, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, APN pour l'Ontario, Abraham Bénédicte, a déclaré que la décision permettra aux Premières Nations de mettre fin à la discrimination dans leur communauté et d'offrir un meilleur soutien aux familles. Nous ne pouvons pas attendre un accord national. C'est trop important dans nos communautés, a-t-il déclaré aux chefs réunis à Toronto. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Mais je crois qu'aujourd'hui est un moment très important. Non seulement nous mettons fin à la discrimination dans nos communautés, dans vos communautés, mais nous faisons progresser votre instance pour créer davantage d'outils afin de faire progresser votre nation, dit Abraham Bénédicte. M. Bénédicte a déclaré qu'il tiendrait les chefs informés des développements au cours des prochains mois, alors que l'accord progresse vers l'approbation du gouvernement fédéral et du Tribunal canadien des droits de la personne. « Nous n'arriverons pas toujours à un consensus à 100%, mais nous poursuivons le travail important que nous accomplissons », a-t-il dit. Il ne s'agit pas du chef régional de l'Ontario, ni des chefs de l'Ontario. Il s'agit de chacun d'entre vous en tant que dirigeant et représentant de vos communautés. Miigwech, félicitations à chacun d'entre vous. La proposition de règlement de 47,8 milliards de dollars présentée par le gouvernement fédéral pour réformer le système de protection de l'enfance des Premières Nations a été rejetée l'année dernière. Une majorité de chefs de tout le pays a estimé que cette proposition de règlement n'allait pas assez loin pour éliminer la discrimination envers les Autochtones. Et les autres? Cet accord est le résultat d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui a conclu que le gouvernement fédéral faisait preuve de discrimination à l'égard des enfants des Premières Nations vivant dans les réserves parce qu'ils recevaient moins de financement pour la protection de l'enfance que ceux qui vivaient hors réserve. Le tribunal avait ordonné à Ottawa de travailler avec les Premières Nations de tout le pays pour réformer le système. L'accord national de 47,8 milliards de dollars devait couvrir 10 ans de financement pour les Premières Nations, leur permettant de prendre le contrôle des services fédéraux de protection de l'enfance, de créer un organisme pour traiter les plaintes et de mettre de côté des fonds pour la prévention. Les chefs de l'Ontario, qui étaient intervenants dans la plainte au Tribunal des droits de la personne, avaient voté en faveur de l'accord l'an dernier. Ils se sont réunis à Toronto récemment pour décider de la marche à suivre pour l'accord spécifique à l'Ontario qu'ils ont négocié avec Ottawa et qui était en grande partie conforme aux termes de l'accord national. L'accord parallèle avec l'Ontario est critiqué depuis des mois par les Premières Nations à l'extérieur de cette province. Le gouvernement fédéral a déjà informé l'APN plus tôt cette année qu'il n'était pas prêt à renégocier les termes de la réforme à l'échelle nationale. Échéance électorale. Les chefs ontariens pourraient avoir bien peu de temps pour finaliser l'accord avant les prochaines élections fédérales, qui pourraient avoir lieu au début du printemps. Le chef Bénédicte déclarait le mois dernier qu'il était optimiste qu'un accord pourrait être finalisé avant les élections, car les réformes ne nécessitent que l'approbation du cabinet et non un vote à la Chambre des communes. Lors d'une cérémonie de signature qui a suivi le vote récemment, M. Bénédicte était accompagné du grand chef de la nation, Anishinaabe Aski, Alvin Fiddler, et de la ministre des Services aux Autochtones, Patty Ajdou. Le chef Fiddler a parlé de l'expérience de sa propre famille avec le système de protection de l'enfance. Sa fille est entrée dans le système alors qu'elle était bébé. « Il y a tellement d'enfants qui sont comme ça », a-t-il raconté. « Cet accord et le travail que nous avons fait pour en arriver là sont pour nos enfants ». La ministre Ajdou a déclaré que ce travail est profondément personnel, car chaque personne dans la salle a été touchée par une structure coloniale qui utilisait le système de protection de l'enfance pour diviser les familles et détruire les cultures des Premières Nations. « Je n'aurais jamais rêvé que je serais capable de faire quelque chose comme ça avec ces deux incroyables dirigeants », a déclaré Mme Ajdou, qui a souligné qu'elle avait reçu la permission du premier ministre Justin Trudeau de négocier avec l'Ontario. « Nous sommes ici grâce à votre leadership à tous, parce que parfois, après un coup dur, et vous le savez personnellement et en tant que dirigeant, il est assez facile de dire « Bon, c'est comme ça, je suppose ». Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous avez tous décidé de continuer à vous battre. » C'était « Les chefs autochtones en Ontario appuient la réforme de la protection de l'enfance ». Un texte de la presse canadienne paru le 26 février 2025 dans Espace autochtone.
Souvenir de la fin du monde, un texte de Stéphane Baillargeon paru le 15 février 2025 dans Le Devoir. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on peut contempler un moyen de la fin du monde. En Arizona, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tucson, deuxième ville de l'État, l'ancien site 571-7 du réseau des missiles Titan II permet exactement cela et rien de moins. Examiner une machine volante capable, en relâchant 9 mégatonnes d'énergie, de détruire une métropole comme Moscou et ses millions d'habitants. Le vestige de la guerre froide, seul survivant d'un réseau de 54 armes infernales identiques, a été transformé en musée après la modernisation de l'arsenal nucléaire états-unien au milieu des années 1980. Les 17 autres silos de l'Arizona et les 18 autres de l'Arkansas et du Kansas ont été dynamités après des accords avec l'URSS. Ce n'est pas un musée ordinaire où on accumule des collections pour les étudier et les exposer, explique Bradley Elliott du service des communications de l'Arizona Aerospace Foundation, qui gère le Titan Missile Museum. C'est un instantané de l'histoire. Le but ici, c'est de préserver le témoin d'une très courte période récente pendant laquelle deux superpuissances ont joué aux échecs avec les armes les plus destructrices jamais produites. En surface, encore aujourd'hui, le site du musée Titan II n'annonce rien de très spécial. il y a un petit immeuble pour accueillir les visiteurs et vendre des souvenirs. Dans la cour arrière, jouxtant un hélicoptère et l'étage d'une fusée, une trappe donne accès au bunker souterrain. Les murs de l'abri en béton hyper armé, larges de plusieurs mètres, peuvent résister à une attaque nucléaire, chimique ou bactériologique. Le groupe de visiteurs ne peut compter plus d'une vingtaine de curieux à la fois. Il n'y a pas d'ascenseur et il faut donc descendre et remonter un escalier d'une dizaine de mètres comprenant 55 marches jusqu'à une porte lourde de 3 tonnes, faite elle aussi pour résister à l'effet de souffle, au four atomique, à l'impulsion électromagnétique et aux radiations. Descendre dans cet antre fait remonter le temps jusqu'aux années 1960 et donne un peu l'impression de se retrouver dans un vieux sous-marin. La couleur dominante des murs, le vert hôpital, choisi par des psychologues, était censée apaiser les occupants. Les soldats au repos avaient une chambre et une cuisine au-dessus de la salle de contrôle de l'âge pré-numérique. Il y a même une étrange horloge murale marquant 24 heures avec des aiguilles. Un panneau d'époque rappelle qu'il était interdit de se trouver seul dans cette zone. La règle de l'accompagnement obligatoire voulait évidemment protéger contre la tentation d'un soldat de déclencher seul l'Armageddon. Une simulation proposée par les guides permet de suivre les 13 étapes du déroulement d'une attaque. Les gardiens du Titan II recevaient un message chiffré par Telex, décodaient les consignes puis actionnaient simultanément des clés de contrôle. Les Soviétiques avaient mis en place un système semblable dans leur propre casemate d'après Hiroshima. Exploration spatiale. Le 26 septembre 1983, à minuit 15, heure de Moscou, le système d'alerte Cosmos avait indiqué que les Américains venaient de lancer des missiles intercontinentaux Minuteman. Le responsable de la station de surveillance, Stanislav Petrov, avait jugé qu'il s'agissait d'une fausse alerte et refusé de déclencher une riposte. Un film documentaire consacré en 2013 à cet incident a pour titre éloquent « Guerre froide, l'homme qui sauva le monde ». La conception du missile Titan II donnait l'avantage d'une opérationnalité immédiate. La première version des années 1950 obligeait à remplir les réservoirs d'oxygène liquide, ce qui retardait de 15 à 20 minutes le lancement. La version améliorée, apparue en 1962, était équipée de carburant hypergolique, déclenchant l'allumage dès leur mélange. Le Titan II se pilotait aussi de manière autonome grâce à ses gyroscopes. Il filait à 25 700 km/h. Le lanceur lourd dans le jargon a aussi été utilisé par la NASA. Des versions de plus en plus puissantes du Titan ont permis en 1959 et 2005 de transporter tous les vaisseaux Gemini, quelques sondes, dont Cassini, et plusieurs très grands satellites militaires. Vous écoutez « Souvenirs de la fin du monde », un texte de Stéphane Bayrajon paru le 15 février 2025 dans Le Devoir. Le temps de la guerre froide, c'est aussi l'époque pionnière de l'exploration spatiale, résume M. Elliott. C'est sur un Titan que Neil Armstrong a fait son premier voyage dans l'espace. Il y a d'ailleurs presque perdu la vie quand son vaisseau s'est mis à tourner en spirale. La bête de métal chromé sans ses charges nucléaires peut être observée par la base et de l'extérieur à travers une trappe vitrée. Le missile d'environ 30 mètres de longueur pour 3 mètres de diamètre pèse près de 150 tonnes. Son tombeau, un silo de 40 mètres, est resté tel qu'il était pendant une vingtaine d'années sous alerte constante. L'Air Force Facility Missile Site 8, autre appellation contrôlée du musée, a été déclaré site historique national en 1994. Avec cet honneur, le missile rejoint 46 autres inscriptions arizoniennes et environ 2500 endroits et monuments réputés d'intérêt à l'échelle nationale, des églises, des vestiges archéologiques, des hôpitaux, des écoles, des théâtres, bref, tout ce qui aurait été réduit en cendres si l'Union soviétique et les États-Unis avaient déclenché la fin du monde. Demain, l'apocalypse. En frappant de concert et en déclenchant une riposte tout aussi apocalyptique de l'Empire soviétique ou vice-versa, les arsenaux nucléaires des deux superpuissances pouvaient et peuvent encore anéantir d'un coup une moitié de l'humanité. Les malheureux survivants seraient plongés dans l'hiver nucléaire et mourraient finalement des effets des retombées radioactives, de faim ou de froid. Cette destruction mutuelle assurée, MAD, selon le très éclairant acronyme anglais, instaure un équilibre de la terreur au cœur de la stratégie de la dissuasion dans laquelle on survit encore. Les productions culturelles entretiennent la grande peur cauchemardesque. Rien qu'au cours des quatre dernières années, les séries télévisées et les jeux vidéo ont proposé Fallout, Les Sangs et Silo, le passionnant et terrifiant documentaire Tournant. L'arme nucléaire et la guerre froide, lancée à l'automne 2024, consacrent 9 épisodes au lourd sujet. Normal. L'actualité politique rappelle constamment la persistance de cette réelle menace. Le dernier accord de maîtrise des armements, le traité New START, qui expirera en 2026, a peu de chances d'être renouvelé, ce qui établirait une première depuis 1972. Le président russe Vladimir Poutine, pur produit de l'ancien régime totalitaire, a agité la menace du recours à l'arme ultime dans le conflit avec l'Ukraine. La Corée du Nord développe un programme atomique depuis des décennies et l'Iran enrichit de l'uranium. La Suède et la Finlande ont distribué à leur population, fin novembre, des millions de manuels de préparation en cas de conflit, une première depuis 1961, au plus fort de la guerre froide. Les dépenses dans le domaine ont gonflé du tiers dans le monde depuis le début de la décennie pour atteindre les 130 milliards en 2023. Les puissances nucléarisées modernisent sans cesse leurs armes et en ajoutent des nouvelles. Les 9 États dotés de la bombe atomique, dont les États-Unis et la Russie loin en tête, possèdent encore plus de 12 000 ogives, un arsenal capable de faire sauter la Terre comme une pomme sous un marteau. Environ 2 000 missiles sont tenus en constant état d'alerte élevé, comme le Titan II d'autrefois, remplacé par 11 versions améliorées depuis. C'était « Souvenir de la fin du monde », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 15 février 2025 dans Le Devoir.